Les As de la CoPro, le métier de syndic.
Alors la séquence, le métier de syndic, là on va peut-être parler de sujets qui fâchent un peu plus, enfin en tout cas un petit peu plus passionnés. Première question que je voudrais poser aux As de la CoPro, la convention de prestation de service signée entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, Quesaco, c'est neuf, c'est nouveau, ça vient de sortir. Pierre-Edouard, qu'est-ce que c'est ?
Un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil parce qu'en fait, c'est un mécanisme de lutte contre les conflits d'intérêts lorsque le syndic veut proposer des prestations qui ne sont pas celles du syndic qu'il propose habituellement, donc au titre de son contrat, mais qui sont d'une autre nature. Ça pourrait être, par exemple, une entreprise de courtage d'assurance, ça pourrait être une entreprise de ménage, de nettoyage des parties communes, de sortie des poubelles, des choses comme ça qui n'ont rien à voir
directement avec bricolage.
Multiservice, absolument. Et si le syndic veut proposer directement, c'est-à-dire sous sa casquette, sous la personne morale qui exerce les fonctions de syndic, à ce moment-là, il doit proposer une convention spécifique et surtout, il doit être autorisé, c'est ça le mécanisme, autorisé expressément pour que les copropriétaires sachent exactement que c'est bien le syndic qui propose cette prestation et pas un tiers. Et donc, il y a une procédure de protection du syndicat des copropriétaires. C'est pour ça que c'est un peu un trompe-l'œil, parce qu'on a appeler ça une convention de prestation de service, alors qu'en fait, c'est un mécanisme d'autorisation préalable à ce que le syndic puisse délivrer cette prestation-là. Et ça existait déjà dans le décret à la fois de 1967 et dans la loi Auguet, son décret de 70 et 72. Et c'est simplement une façon de l'avoir remonté dans la loi de 1965 pour l'afficher de manière beaucoup plus forte, de manière beaucoup plus évidente, pour que les copropriétaires puissent se saisir de cette question du conflit d'intérêts et de mieux réguler la pratique.
Alors, c'est vrai que convention de prestation de service, donc c'est nouveau de l'ordonnance Elan de 2019. Je ne sais pas si beaucoup de syndics ont bâti des conventions de prestation de service. Est-ce qu'elles en ont beaucoup proposé ? C'est vrai qu'on ne sait pas quoi mettre dedans parce que, un, il faut que ça réponde à l'objet social du syndicat des copropriétaires, c'est-à-dire la conservation, l'administration et l'amélioration de l'immeuble. Il ne faut pas que ce soit dans les missions du syndic qui sont déjà très, très larges. Donc, au final, on met quoi dans cette convention de prestation de service ? Mathieu, est-ce que vous avez commencé à réfléchir dessus chez Foncia ?
Oui, alors je pense qu'il faut rien s'interdire, mais comme vous le dites, hein, il faut déjà que le syndic soit qualifié pour le faire, qu'il soit assuré pour le faire, et il faut que ça rentre dans l'objet du syndicat. Il y a sûrement des très bonnes idées, mais il faut aussi que ça intéresse les copropriétaires. Aujourd'hui, l'expérience montre qu'il y a un type de convention de prestation de service qu'on retrouve un peu partout, qui est la prestation d'assistance 24/7, c'est-à-dire qui consiste, en dehors des heures ouvrables du cabinet du syndic, à mettre une astreinte qui déclenche des interventions en cas d'urgence, en cas de fuite d'eau, en cas d'engorgement, en cas de panne électrique, le soir ou le week-end. Donc, à part ça, j'en connais pas d'autres.
Mais alors faire une convention demain, de prestation de service juste pour 24/7, en plus je crois que tout le monde n'est pas d'accord autour de la table. Pierre-Edouard, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça rentre pas déjà dans l'émission du syndic, ça ?
La question, en tout cas, est ouverte parce que on peut s'interroger sur la nature de la prestation qui est proposée. Il faut voir si cette prestation correspond aux missions de syndic ou si elles vont au-delà. Est-ce que la prestation qui est proposée donc en nocturne, parce que c'est ça hein, la pratique, c'est de savoir est-ce que une fois que les bureaux sont fermés, est-ce que le syndic est toujours syndic ? Ce serait la première question. Et est-ce que les prestations qui sont proposées au-delà de la fermeture correspondent aux missions ordinaires du syndic ? Si oui, aux deux questions, à ce moment-là, on peut se poser la question de la validité de la prestation de service. Si on propose autre chose, si on propose différemment des missions qui ne seraient pas proposées par un syndic, à ce moment-là, peut-être que la prestation pourra valoir. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra regarder au cas par cas et voir si c'est dans l'intérêt des copropriétaires et si ça va au-delà des fonctions du syndic.
Alors, c'est vrai que, bon, il y a débat. Qu'est-ce qu'on met dans cette convention de prestation de service ? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple, finalement, et ça me permet d'enchaîner sur la deuxième question de cette séquence, le métier de syndic ? Finalement, est-ce que ça n'aurait pas été peut-être plus simple ?
Je veux bien répondre quand même à l'intervention de Pierre-Edouard, parce que, effectivement, il y a discussion. Néanmoins, tout le monde est d'accord pour dire que le syndic n'est pas à dispo 24/24. Et le système de la convention de service, qui certes peut être discuté, et le plus transparent, le plus facile à mettre en œuvre, il est voté en AG. Il y a une convention, on sait exactement l'objet. Jouer avec le contrat de syndic et dire « je vais juste étendre les horaires et garder mon agence ouverte toute la nuit », on comprend bien que c'est pas possible. Donc la réglementation n'est pas simple, mais je pense que quoi qu'on en dise, ce qu'il faut, c'est que la prestation soit très claire, notée dans une convention, votée en Assemblée Générale. Voilà, 24/7 ou autre chose. Après, ce sont les copropriétaires qui choisissent si ça les intéresse ou pas. Et le fait qu'il y ait du 24/7 proposé par tous les grands groupes montre que là, pour le coup, c'est quelque chose qui intéresse Et c'est un vrai besoin des copropriétés.
Bon, en tout cas, à creuser, ce que je retiens aussi, c'est que c'est vrai que si on veut proposer un service, on ouvre une filiale, tout simplement, avec une autre entité juridique, courtage en assurance, vous en parliez, j'ouvre un cabinet de courtage, voilà, qui doit quand même passer sous l'autorisation de l'Assemblée Générale, puisqu'il y a les liens capitalistiques et de direction. Donc, au final, c'est vrai qu'on en revient toujours à ce qui préexistait avant la réforme.
Il n'y a pas eu d'explosion des conventions de services et des services proposés par les syndics, et il n'y en aura probablement pas.
C'est ce que je pense aussi. Le contrat de syndic type, alors justement, c'est la deuxième question. Ma deuxième question, la concertation bisannuelle du contrat type ou du décret portant sur le contrat type aura-t-elle lieu? De quoi on parle quand on parle de ça, Alexis de Coster?
Bisannuel, je crois que c'est tous les deux ans.
Tous les deux
ans. Mémoire, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant en me remémorant et en relisant l'article 18 notamment et le décret. Écoutez, j'ai pas.
Tous les deux ans. Et là, on est à combien
je pense qu'on est à peu près à.
7 ans
7 ans, voire.
Puisque le décret de 2015.
Mars 2015.
Mars 2015.
Ça fait 7 ans.
7 ans. Donc ça veut dire qu'effectivement, si ça fait 7 ans, ça veut dire que c'est presque maintenant qu'il faut peut-être aussi de revoir et rappeler au ministère, effectivement, les engagements qui sont quand même codifiés dans les textes. Cette concertation bisannuelle, alors visiblement, il semblerait que le dernier décret qui est paru en juillet 2020 fasse office de concertation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le dernier modificatif du contrat valent cette concertation.
Alors que j'appelle moi. J'étais pas au courant.
Donc personne visiblement n'était au courant. Donc c'est une concertation, c'est un nouveau concept, la concertation unilatérale.
Unilatérale, oui. C'est ça.
Donc effectivement, si c'est le cas, donc ça veut dire que dès juillet 2022, il faudra qu'on l'ensemble de la profession s'en rappelle au bon vouloir du ministère du Logement pour qu'avec le CNTJ. On puisse rediscuter d'un certain nombre de dispositions du contrat type de syndic pour ou restreindre ou enlever un certain nombre de dispositions, voire rajouter.
Faire évoluer tout simplement, discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas. Les choses ont bien changé depuis 7 ans en termes de réglementation. Bon, il y a eu une petite mise à jour technique et qui vaut donc, comme vous le dites, concertation. Ça reste très, très discutable. Des évolutions sociologiques, des évolutions technologiques. Justement, ce contrat de syndic aujourd'hui, si on devait le faire évoluer, dans quel sens on pourrait le faire évoluer?
J'ai envie de dire d'enlever certaines missions pour les isoler, parce que les gestionnaires, ils ont un éventail, et les syndics ont un éventail de prestations à effectuer. Je pensais notamment à tout ce qui était paie des gardiens, concierges et employés d'immeubles. On peut se poser aussi la question de la structuration de notre profession, parce que je rebondis sur ce que vous disiez, Alexis, sur le CNTGI, qui est un peu un organe moribond. Enfin, on n'en entend pas parler. Donc, moi, je pense que notre contrat, pour qu'il évolue, il faudrait qu'il y ait un ordre, il faudrait qu'il y ait une fédération des syndics.
Un syndicat uni,
actif, qui redore un peu aussi le blason de notre profession, qui fasse de la pédagogie, qui fasse de la communication, parce que sinon, on ne pourra pas le faire évoluer, ce contrat, puisqu'on sera complètement dans un deal mercantile avec nos copropriétaires et financiers. Et on aboutira, selon moi, à rien, et au détriment de la qualité.
Contrat de syndic réglementaire, sclérosé, qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Edouard?
Moi, ce qui me frappe d'une certaine manière, ici, mais de manière générale, quand on discute avec les syndics de copropriété de leur contrat, c'est qu'en 2014, lorsque l'idée du contrat type a émergé, il y avait un vrai bouclier contre cette idée, parce qu'il y avait des contrats qui étaient assez librement discutés, même s'il y avait l'arrêté Novelli, mais il y avait un encadrement qui laissait encore un peu de marge de négociation. Et avec le contrat type, on se rend compte que tous les syndics l'ont accepté. Et la preuve, c'est que là, en ce moment, on est en train non pas de discuter de contrat type lui-même, mais on est en train de discuter de comment est-ce qu'on peut éventuellement aménager le forfait, le hors-forfait, comment on peut faire évoluer un petit peu les choses.
De l'accepter.
Non, mais la question peut toujours se poser. À partir du moment où on est dans la concertation avec les pouvoirs publics, est-ce que la régulation, on pourrait se poser cette question, est-ce que la régulation a fonctionné? Est-ce que c'est profitable aux copropriétaires? Est-ce que ça permet une bonne économie de marché? Est-ce que ça permet une libre concurrence? Est-ce que, finalement, le contrat type répond à son office? Et c'est ça la question qu'il faut poser si on veut en tout cas discuter demain avec les pouvoirs publics, c'est de savoir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on l'améliore. Si ça fonctionne pas, on revient dessus. Mais je pense que c'est la première question qu'il faudrait se poser. Et lorsqu'on aura répondu à cette question, il faudra se poser celle de l'amélioration au nom du contrat.
Parce qu'effectivement, on pourrait très bien imaginer un contrat de mandat pur d'une page, puisque je rappelle quand même que le syndic est mandataire et pas prestataire. C'est vrai que le contrat type ressemble à un contrat de ménage hein, avec des tâches. 11 pages quand même. Imaginez un contrat de syndic, mandat pur, l'identité des parties, la durée, le prix, l'objet du contrat, terminé. On renvoie ensuite à l'article 18 de la loi de 65 et toutes les autres articles où on a les obligations du syndic qui sont de toute façon d'ordre public. Et puis après, on renvoie d'une façon plus générale au devoir du mandataire, code civil. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, moi, je pense que le contrat type est quand même assez bénéfique et il a permis quand même de mettre en place une concurrence sur des bases saines, équivalentes. Les copropriétaires savent exactement à quoi s'engage la personne qu'ils ont en face. À mon avis, personne ne souhaite le remettre en cause. Je peux me tromper, mais à mon avis, personne. Non, ce que je pense, c'est que nous, syndic, on a la responsabilité d'expliquer à nos copropriétaires que ce n'est pas parce qu'il y a un contrat type que les honoraires doivent être les mêmes d'une copropriété à l'autre. Hein, la charge de travail n'est pas la même. Marie-Hélène parlait de la gestion des gardiens. Bah, quand on gère un gardien, forcément, il faut faire les payes, il faut faire toute la gestion du personnel. Ça a un coût, et ce coût-là, eh ben, il faut qu'on explique et qu'on fasse de la pédagogie pour qu'il se retrouve dans le forfait de base. Et qu'on ne soit pas toujours sur des comparaisons sur la base d'un prix par lot en fonction du nombre de lots.
Alexis,
qui n'a pas de sens. Effectivement, il faut revenir avant 86. Hein, avant, effectivement, c'était un arrêté préfectoral. Et on voyait bien qu'effectivement, vous aviez les différents coefficients qu'on ajoutait en fonction ou en présence ou en l'absence d'un chauffage collectif, la présence ou l'absence d'un gardien ou d'un employé d'immeuble, la présence ou l'absence de compteur d'eau. Tout ça, auparavant, c'était codifié. Et donc, effectivement, il y avait des francs.
Des barèmes.
Des barèmes, une sorte de barème.
C'est resté dans la pratique.
Alors, c'est resté, sauf que c'est plus noyé aujourd'hui. C'est qu'on ne tarife pas aujourd'hui. On a du mal à sortir, finalement, d'une tarification au lot, un peu, je dirais, au doigt mouillé. Il n'y a pas de démarche véritablement scientifique quand on fait une tarification. Ça, c'est toute la problématique. Aujourd'hui aussi du prix de revient d'un lot en copropriété. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui l'ensemble de la profession soit en capacité de déterminer en fonction de la charge de travail si effectivement le modèle économique, parce que c'est pas un mot grossier que de dire ça, est intéressant quand il y a une tarification derrière. Bon. Donc effectivement, il faut qu'on puisse... je pense qu'on ne reviendra pas aussi sur cette nature de contrat type de syndic. En revanche, il faut qu'on puisse moduler, hein, puisqu'un immeuble, aujourd'hui, on a le même contrat qu'on gère 2 lots ou qu'on en gère 5 000. Donc c'est peut-être sur le fait de pouvoir moduler un petit peu, c'est peut-être ces différents contrats types.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a matière à faire évoluer le contrat de syndic. Le sujet, c'est la concertation aura-t-elle lieu ? Pour l'instant, bon, personnellement, je le dis, enfin, à titre personnel, pour moi, elle n'a pas eu lieu. La prochaine, donc, on l'attend, hein, si c'est 2022, on voit bien, il y a matière à débat. Je vous remercie, je boucle sur cette question et on passe à la séquence suivante, la question du copropriétaire.
Les As de la CoPro sur Radio Immo.